Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Et en fait, la fille ne servait qu'à servir la soupe.
Ah oui.
Et donc lui, il lui avait écrit des vannes horribles. À un moment, j'avais un god sur scène, un god comme ça, genre un god énorme de 30 cm, 40 cm. Et genre, le god était noir, tu vois. Et la vanne, par exemple, et ça, c'était genre la meilleure vanne de la fille, c'était le mec qui lui disait « Mais pourquoi tu l'as pris en noir ?» Bah, parce qu'en blanc, ça n'existe pas. Oh, tu vois, c'était genre ça.
À l'ancienne.
Non mais tu peux franchement.
Le
20e gens...
siècle.
Non mais en fait, si ce mec, il prenait pas de l'argent sur les billets qu'il vend, je dirais aux gens d'aller voir cette pièce. C'est une masterclass de du non humour qui cartonne.
Exécuté par qui? Fabrice Florent.
Bonjour, bonsoir, bon après-midi à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Daronne, le podcast où un mardi sur deux, à partir de 6h du matin, je donne la parole à une femme pour lui faire causer de son expérience de la maternité ou de la non-maternité sous tous les angles. Alors je suis Fabrice Florent et mon métier c'est de faire parler les gens. Je fais parler de mes invités, de leur intime, parce que je suis convaincu que l'intime est bien plus universel qu'on ne le pense. Vous verrez, vous vous reconnaîtrez peut-être dans les histoires des gens qui parlent dans mon micro alors qu'ils racontent leur histoire. Je fais donc parler des gens, plutôt dans des podcasts de conversation, sur divers sujets. Des pères de paternité, des mères de maternité, des célébrités de leur parcours vers le succès, des hommes de masculinité et aussi, bien sûr, des gens de leur rapport à l'argent. Je fais aussi un talk show avec ma partenaire Mimi Hegel qui s'appelle le Fab et Mimi Show. Bref, vous retrouverez tous les liens dans les notes de cet épisode si vous voulez découvrir ces autres podcasts. Et d'ailleurs, si vous découvrez mes podcasts, je fais pas mal d'autres choses. Allez donc voir ça sur mon site internet fabflorent.com, fabflorent.com. Si mes podcasts et mon travail vous aident d'une manière ou d'une autre, alors vous pouvez m'aider en retour en m'envoyant un don en argent sonnant et trébuchant avec votre carte bleue ou alors en vous abonnant à mon Patreon à partir de 5€ par mois. Vous trouverez les liens dans les notes de cet épisode. Merci d'avance, c'est très cool. Enfin, si vous aimez le podcast, vous pouvez vous y abonner, mettre un chouette commentaire et 5 étoiles au podcast sur votre appli de podcast préféré, en particulier si vous écoutez sur Apple Podcasts ou Spotify. Et surtout, partagez cet épisode et ce podcast autour de vous s'il vous a plu. Je suis sûr que vous connaissez des gens que mon travail pourrait intéresser. Vous pourrez également venir commenter avec mes auditrices et mes auditeurs chaque épisode directement sur mon Discord. Je vous invite à aller découvrir Discord, c'est un petit logiciel génial qu'il faut installer sur son téléphone ou sur votre ordinateur. En fait, vous pouvez me suivre sur les différentes plateformes et réseaux sociaux et trouver toutes les infos pour me contacter dans les notes de cet épisode. Merci d'avance et bonne écoute. Blandine, bienvenue!
Merci!
Bienvenue dans l'histoire de Daronne!
Bah merci, je suis trop content d'être là!
Et bah moi je suis trop content de t'avoir également!
Ça me fait plaisir!
Bah moi aussi également, ça me fait plaisir!
Toi qui s'arrête jamais! Moi je t'adore!
Blandine, oui. C'est cool de t'avoir dans l'histoire de Daronne parce que, si j'ai bien compris, ouais. L'histoire de ta. Limite de ta carrière de stand-upeuse, hein, parce que t'as été comédienne avant ça, a démarré aussi de façon un peu concomitante. Parce que j'ai envie d'utiliser ce mot.
Ouais, j'ai jamais entendu utilisé par quelqu'un que je connaissais.
En parallèle, quoi, tu
ouais,
vois.
Ok. Ah, ok.
Avec ta. Alors, pas ta carrière de daronne, mais en tout cas, t'as eu la naissance d'un baby.
Oui, exactement. Ouais, c'est né un peu grâce à ça. En fait, le stand-up, c'était une passion que je nourrissais secrètement. C'était un truc dans ma vie de comédienne. J'ai toujours voulu. C'est-à-dire qu'en fait, je me suis toujours dit, si un jour j'arrête de faire ce métier, parce que c'est un truc que j'ai envisagé à maintes et maintes reprises, j'imagine comme tous les métiers qui sont un petit peu prenants, je l'ai envisagé à maintes et maintes reprises, je me suis dit, ok, je me suis toujours dit, si j'arrête ce métier, quoi qu'il arrive, il faudra que j'aie écrit mon spectacle avant.
Okay.
Parce qu'en fait, tu sais, cette histoire d'avoir tout donné, de ne pas avoir de regrets dans la vie... Et en fait, si tu veux, moi, à la toute base, j'étais devenue comédienne pour un jour être stand-upeuse et faire de l'humour et tout. Alors, je sais pas comment, par quel biais j'allais le faire, mais je savais que c'était vraiment ça. Donc, en fait, je suis d'abord devenue comédienne. J'ai fait par étapes, c'est-à-dire que je suis devenue comédienne. Après, je suis devenue intermittente, histoire de pouvoir en vivre, quoi, tu vois. Ensuite, une fois que j'étais intermittente, mon but, c'était d'accepter des projets qui me plaisaient de plus en plus, tu vois. Parce que je suis passée par des trucs où j'ai joué des trucs... Non, mais si je pouvais les effacer de ma vie, ces moments, enfin bref, je le ferais.
C'est un peu le...
Ouais, c'est... Mais après, c'est comme tout métier, hein. Des fois, quand, avant de devenir boucher, bah, avant, tu fais ça, tu fais ça. Enfin voilà, c'est dans n'importe quel métier, tu commences. Tu essuies un peu la merde au début, quoi. Et bah, moi, je l'ai vraiment fait. Et ce qui est fou, c'est que j'ai fait des trucs qu'aujourd'hui, genre, je regrette de ouf. Et c'était les trucs qui les mieux payés, tu vois. Mais c'était genre des trucs, mais... Enfin, de toute façon, ces genres de trucs, si tu en plus tu les payes mal, il n'y a aucune comédienne qui veut les faire. Hein. Bref, donc c'était par étapes.
Je ne sais pas ce que c'est, mais en tout cas...
C'est une pièce dans laquelle je jouais. Une pièce écrite par un énorme misogyne.
Ah oui.
Qui vraiment... C'est-à-dire que tous les clichés possibles que tu peux avoir sur une femme, je devais les faire sur scène.
Oh boy.
C'est-à-dire genre... me déguiser en infirmière pour séduire mon homme. Tu vois, genre des trucs horribles. Genre
la si fille... c'est votre kink, on vous juge pas, hein.
Ah non, mais bien sûr,
si c'est votre truc, on est là, c'est pas grave. Non, c'est juste de le mettre en scène.
C'est pas ça, c'est qu'en
c'est
fait
le cliché qu'il y a derrière.
Moi j'en ai rien à faire de ce que tu veux me faire faire sur scène. En vrai, c'est juste, tu sais, c'est comme tout, c'est à dire qu'en fait, à partir du moment où le gars il veut juste me déguiser en infirmière pour séduire son mari, allez, à la rigueur, tu vois. Mais le problème, c'est la succession de clichés toxiques, en fait, fait qu'à la fin et couplé à ça, des vannes nullissimes. C'est pas de l'humour, en fait. Tu vois, c'était vraiment... Et en fait, ce mec avait, en fait, faisait du one à l'époque, n'avait pas du tout percé. Et en fait...
J'allais dire c'est Michel Leeb, mais non.
Mais non, parce qu'il doit envier la carrière de Michel Leeb. Hein. Et en fait, c'est un humoriste, c'est horrible à dire, raté. Et en fait, qui s'est servi de son spectacle qui était... Pourquoi raté? Parce que son spectacle est vraiment cul à mort, mais cul, tu vois, pas la bigarre, c'était cul pire que ça. Ouais, c'est difficile à imaginer.
Oh, wow.
Et en fait, le mec avait écrit une pièce, si tu veux, en fait, pour... il a transformé son one en pièce, mais en fait, pour briller à côté d'une comédienne, pour...
Donc, il jouait dans la pièce.
Ouais, il jouait dans la pièce. Okay. Oh là là, il joue encore. Et il jouait dans la pièce... Et en fait, la fille ne servait qu'à servir la soupe.
Ah oui.
Et donc, lui, il lui avait écrit des vannes horribles. À un moment, j'avais un god sur scène, un god comme ça, genre un god énorme de 30 cm, 40 cm. Et genre, le god était noir, tu vois. Et la vanne, par exemple, et ça, c'était genre la meilleure vanne de la fille, c'était le mec qui lui disait: mais pourquoi tu l'as pris en noir? Parce qu'en blanc, ça n'existe pas. Tu vois, c'était genre ça. Genre, c'était horrible.
À l'ancienne.
Non, mais tu peux. Franchement,
le
20e
siècle.
Non, mais en fait, si ce mec, il prenait pas de l'argent sur les billets qu'il vend, je dirais aux gens d'aller voir cette pièce. C'est une masterclass du non-humour qui cartonne. Parce que cette pièce, ça peut paraître incroyable.
Mais non, c'est normal.
Mais non, ce n'est pas normal.
Alors, c'est pas normal dans l'absolu, bien sûr. Mais en fait, j'imagine que tous les gens qui sont dans cette pièce, ils ont tous plus ou moins les cheveux gris, n'est-ce pas?
Qui sont dans le public, tu
oui,
veux dire?
Dans le public, pardon.
Ouais.
Voilà.
Bah, un petit peu, et puis.
Il y a quand même beaucoup de vieux en France.
Non, il y a beaucoup, tu sais, il y a beaucoup de gens qui se font berner. Parce qu'en fait, ce qui est horrible, c'est que le titre est sympathique. Enfin, toi, quand t'es un peu dans le métier, tu sais que c'est un titre accrocheur. Mais en réalité, en tant que public lambda, tu peux te faire alpaguer par le titre. Et surtout, la description. T'as l'impression d'aller, tu pourrais aller voir cette pièce au théâtre Édouard VII. Enfin, tu vois, le descriptif, c'est pas. C'est pas tire sur mon doigt, le descriptif. Le descriptif, c'est, t'as l'impression que c'est un vrai problème de couple où la femme et le mari vont essayer de trouver des solutions pour s'en sortir.
Okay.
Donc en fait, il y a beaucoup de gens aussi, moi je voyais, qui se faisaient berner. Mais genre, dans la pièce, à un moment donné, t'as un mec, t'as le régisseur qui lance un bruit de paix. Et nous, on doit avoir un faux fou rire. Genre, mais c'est quoi cette histoire? On doit faire semblant que ça n'est, c'est pas normal. Et le régisseur dit: ah, désolé, j'ai mis sans faire exprès le spectacle d'un autre. Et lui, il répond: bah, dis-nous lequel c'est, comme ça on n'ira pas. Enfin, tu vois, alors
incroyable.
Qu'en fait, c'est dans sa pièce. Non, mais je te jure, c'est. Et on n'avait pas le droit de dire à la sortie au spectateur, quand les spectateurs nous disaient: mais ça vient d'où? C'est dans votre pièce? C'est normal? Genre, ou c'est fait exprès? Enfin, machin. Et j'avais pas le droit de dire: c'est fait exprès. Et je devais répondre: ah, bah, tu reviens, comme ça tu sauras. Bref, j'ai été hyper malheureuse dans cette pièce. Non, mais tu vois, genre, pour que j'en parle comme ça, non, mais moi je raconte ma vie. Mais bref, donc si tu veux, c'est horrible. Et en fait, je suis
non,
passée.
Mais ça fait, c'est de... En fait, c'est intéressant parce que c'est de là d'où tu viens finalement.
Bah ouais, carrément. Pour fait... avoir l'intermittence.
Oui, ça fait partie des couleuvres qu'il faut avaler. Hein,
Et grâce à lui, je crache dans la soupe aujourd'hui, mais enfin, je lui ai rendu service, hein, d'avoir une dette d'y aller, hein, mais. Ouais. Mais grâce à ça, j'ai eu l'intermittence. C'est la première fois que j'ai eu l'intermittence, c'est grâce à cette pièce horrible.
Mais ça t'a pas flingué ta confiance dans le métier, dans ta capacité à te dire ok, je peux sortir de là, je suis pas obligé d'être cantonné à ce rôle de meuf qui va servir de passe-plat.
Non, ça m'a
quoi.
Pas flingué ma confiance parce qu'en fait, si tu veux, quand quelque chose est vraiment minable à tes yeux, hein, tu vois, quand le truc est vraiment mauvais et même le type, hein, le type, c'est hein, franchement, il fait partie de des sales types, ouais. Tu vois. Et quand je dis sale type, c'est plus misogyne à mort, le genre de mec qui a des baskets Hugo Boss, enfin tu vois, genre et qui.
On se détaille.
Et donc. Okay. Je te jure, mais tu verrais le type. Tu l'observes 4 secondes, toi tu sais exactement quel genre de mec c'est. Et en fait, il a commencé à plus supporter jouer avec moi à partir du moment où je commençais à faire plus rire que lui. Ce qui est impossible, c'est-à-dire c'est mathématique. Dans cette pièce, la femme ne peut pas faire plus rire que l'homme. Tu vois, c'est mathématique, c'est voilà. Ouais. Et en fait, il a commencé à pas supporter. Donc en fait, moi je savais ce que je...
T'étais un peu en train de lui...
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bah, l'unique est son game, quoi.
De hijack, c'est ça.
Ouais. Mais franchement, et en fait, moi, je me faisais... pour moi, c'était hyper important d'arriver à faire rire dans cette pièce, alors qu'il me disait, en gros, reste à ta place, tu vois. Et en fait, moi, c'était une lutte envers moi-même. Si j'arrive à faire rire avec ce texte, genre, je suis une machine, quoi, okay. Tu vois. Enfin, je suis une très bonne comédienne.
Ok.
Et donc, du coup, voilà. Et donc, j'ai essayé de... Donc, j'ai passé des steps dans ma vie de comédienne. Voilà. Donc, j'ai eu l'intermittence. Après, j'ai commencé à accepter des... Parce qu'après, voilà. Moi, par contre, des projets... une fois que j'avais l'intermittence, des projets comme ça, je voulais plus du tout en voir la couleur. Enfin, je préférais faire de la figuration pour avoir quelques cachets en plus.
Et après, on va parler de ta vie de daronne. Hein. C'est juste pour...
Oui, bien sûr. Pardon, excuse-moi.
Non,
je suis désolée.
Non, je le dis pour les gens. C'est que on est en train de planter le décor de ce qui va suivre.
Ouais, bien sûr. Et donc du coup,
excuse pas de raconter ta vie. Hein.
Non, mais bien sûr.
Je le dis pour les gens.
Et après, et en fait, si tu veux, donc voilà, moi j'ai eu plusieurs fois envie d'arrêter ce métier aussi parce que, franchement, moi je vivotais à mort, quoi. Je gagnais vraiment, j'étais au SMIC. Alors des fois, t'as un truc de fou qui tombe, et des fois, au lieu de toucher 1002, tu touches 2000. Voilà, ok. Mais c'était vraiment le max. Et en fait, j'en avais un peu marre, voilà, de survivre, de pas pouvoir partir en vacances, des machins et tout. Mais j'avais comme objectif où je me disais ok, tu vas arrêter, mais commence à écrire du stand-up parce qu'en fait tu ne pourras pas arrêter tant que t'auras pas abouti à ça, tu vois. Quand je suis tombée enceinte, donc je suis tombée enceinte fin 2019 et je commence à faire des plateaux, tu vois, mais genre jusqu'au Covid, donc mars 2020, je fais genre 4 plateaux d'humour, tu vois, de stand-up.
Mais alors, attends, parce que tu dis je tombe enceinte et je commence à faire des plateaux.
Ouais.
Comme on est dans l'histoire de Daron, à quel point la maternité t'a donné envie de...
C'est pas la maternité.
C'est parce que il y a plein de femmes qui sont dans ce podcast et qui ont vraiment un déclic de...
C'est après le... Non, en fait, c'est... En fait, imagine-toi, moi, quand j'avais 20 ans, je voulais faire de l'humour.
Ouais.
Je savais pas si je voulais faire du one-man show, du stand-up, enfin, tu vois, parce que tu sais, il y a une petite différence quand même. Je savais pas, mais je savais que je voulais faire rire sur scène, voilà. Et même, tu vois, faire des grandes pièces de théâtre comme Les Faux British, des trucs comme ça, qui sont des superbes comédies d'humour, ça j'en rêve aussi. Hein. C'est-à-dire que moi, on m'appelle, on me dit « tu veux faire ce genre de pièce ?» Je dis oui tout de suite. Hein.
Il y a un god ou il n'y a pas de god ?
Il n'y a pas de god. Dès qu'il y a un god, c'est non. Et donc c'est un truc qui me trottait dans la tête. Mais tu sais, quand ça me trottait dans la tête, j'avais 20 ans, j'étais très très loin de la maternité. J'étais une jeune femme et tout.
Oui.
Et puis tu vois, comme j'ai eu des complexes dans la vie et tout, moi j'ai commencé à parler de ça, à raconter cette histoire d'obésité quand j'étais jeune et tout, tu vois. Et donc du coup, je monte sur scène. Franchement, ça se voit même pas que je suis enceinte. C'est vraiment au tout début. Je tombe enceinte en novembre. Comme mon premier plateau, je le fais en décembre. Enfin, tu vois. Et je parle même pas de ça. Confinement. Et moi, bah comme je l'ai toujours fait, bah je racontais ma vie à mes abonnés. On était 800 à l'époque. Je racontais ma vie de femme. Et en l'occurrence, à ce moment-là, je racontais ma grossesse. J'étais enceinte de 5-6 mois, et je racontais cette vie. Et donc, j'ai été partagée par pas mal de nanas, dont Daniela Martins, qui est suivie par essentiellement des mamans, et grâce à qui elle m'a donné une visibilité de fou, quoi, tu vois, parce qu'elle partageait souvent mon compte et tout. Et donc, pendant le confinement, j'ai commencé à avoir une petite communauté de mamans, tu vois. Mais petite pour moi, qui était déjà énorme, puisque j'en avais genre 3-4 000, mais très engagée, quoi, des nanas avec qui je parlais, enfin, tu vois. Et puis, qui me donnaient des conseils et tout. Et en fait, j'ai commencé à raconter tout haut ce que je vivais tout bas, tu vois. Et en fait, je me suis rendu compte que ces nanas à qui je parlais de mes problèmes, parce qu'il y avait aussi des femmes enceintes, des femmes, des mamans, il y avait de tout. Quand j'ai commencé à dire tout haut ce que je pensais tout bas, je me suis rendu compte qu'il y avait une vraie niche. Et non, mais un vrai truc, quoi. Un truc que j'ignorais. Moi, j'avais l'impression de les vivre toute seule, puisque j'étais enceinte pour la première fois, machin et tout. Donc, j'avais l'impression de les vivre toute seule. Et en fait, de les dire, ça faisait du bien. Même des fois, des trucs relous. Hein. Souvent, des trucs relous.
Oui.
Et en fait, elle me disait, putain, moi aussi. J'étais là, pardon. Genre, truc de fou, quoi, tu vois. Et donc, j'ai commencé, du coup, à me dire, Blandine, toi, tu veux faire du stand-up? Évidemment, je parle pas que de maternité, hein. Mais toi, tu veux faire du stand-up? Évidemment que les trucs qui me venaient en tête à ce moment-là, c'était pas de raconter la petite jeune que j'étais.
Ouais.
C'était de me raconter là, en tant que femme, en tant que femme enceinte et tout. Un an passe parce que tu vois, les théâtres étaient fermés, on pouvait pas faire de trucs.
Tu sais, c'est intéressant ce que tu racontes parce que je crois que c'est un vrai truc. Et alors, moi, je le sais parce que je reçois beaucoup de gens qui racontent de l'intime et qui ont toujours l'impression de raconter leur vie qui ne leur appartient qu'à eux. Mais l'intime, plus tu vas vers l'intime, plus tu touches à l'universel en fait.
Mais c'est incroyablement.
C'est un peu ma
vrai.
Ligne édito, tu vois. Et dans le podcast, il y a plein de gens qui me racontent vraiment des trucs très, très intimes. Mais en fait, forcément, tu n'es jamais tout seul à vivre un truc.
Mais c'est incroyablement vrai. Et l'humour, c'est vraiment ça. C'est-à-dire, je vais te raconter un truc extrêmement intime et tu as des gens qui vont me dire, waouh, pareil. Et en fait, quand je faisais, parce que moi, je fais beaucoup de stories, en fait, je raconte.
C'est perturbant un peu au départ.
Ouais, carrément. Vraiment, genre, en fait, vraiment, je me souviens quand je racontais mes déboires de femme enceinte. Et comme c'était vraiment très nouveau pour moi, et encore une fois, c'était la première fois que j'étais enceinte et tout, et quand je voyais des nanas qui me disaient, meuf, mon fils a 5 ans, c'est que le début, j'étais là, pardon, et elles me disaient exactement pareil, machin et tout, en fait, je croulais un peu sous le nombre de filles qui me disaient pareil. Et en fait, ça m'a vraiment persuadée, ça a tamponné le fait qu'il fallait que je parle de ça, tu vois. Et donc, du coup, je sais plus trop où j'en étais. Bah, mais
confinement.
Voilà, fin du confinement. Avril 2021, j'ai l'occasion de faire clandestine un plateau organisé par Christelle Chollet. Et comme moi, j'avais fait 2-3 plateaux avant et que, bah, du coup, en un an, ma communauté avait énormément grandi. T'as des humoristes femmes qui me disent « Tu veux en faire partie ?» Bon, bah, OK. Je monte sur scène pour de vrai à ce truc qui passe à la télé.
T'es toujours enceinte, là ?
Non, c'était à avril 2021. Ma fille, elle avait même pas un an. Elle était née en août.
Okay.
Et genre, bah, moi, tu vois, août, avril suivant, je fais ce plateau. Et là, j'ai un petit peu... J'ai eu hyper peur, mais j'ai eu un petit déclic. Je me suis dit « OK, en fait, faut y aller à fond. » Et là, commence... le stand-up pour de vrai, où je fais les comédies club, machin. Dans ma tête, je me dis, OK, je prends 2 ans pour écrire mon spectacle. Je fais Avignon 2023 pour roder mon spectacle. Ensuite, j'arrive à Paris. Tu vois, genre, tout un calendrier dans ma tête comme ça. Sauf que je commence à avoir ma place. Donc là, on est l'été 2021, suite à ce truc de clandestine. Et là, j'apprends par grand hasard, mais par grand hasard, que j'attends un deuxième enfant. Et là, je me dis, OK, Donc tout est chamboulé. C'est-à-dire
alors,
que.
Est-ce qu'on peut faire un petit message préventif sur la contraception pour les plus jeunes qui nous écoutent ou pour les plus vieilles d'ailleurs, peu importe. Hein, y a pas d'âge hein, pour un petit message préventif pour la contraception. Est-ce que par exemple la méthode du retrait ne fonctionne pas, Blantine? Est-ce que ça. Non mais j'aime bien. J'utilise aussi ce podcast un peu comme une plateforme, tu vois, de prévention et d'information.
Oui, ça
quoi.
Ne fonctionne pas.
La méthode du retrait ça n'est pas une méthode de contraception.
Ça ne fonctionne pas.
Il faut
pas.
Le dire.
Oui, complètement.
Si vous cherchez à calculer votre température, machin, tout ça, même si vous pouvez être au taquet, hein, il y a un moment donné où ça n'est pas une méthode de contraception. Sachez-le, ça n'est pas une méthode officielle. Hein.
Non, mais moi j'étais bête aussi, tu vois.
Mais parce
t'étais
bête.
Non, mais c'est pourquoi ? Parce que moi j'ai mis du temps à avoir ma fille. J'ai mis du temps à tomber enceinte.
On peut en parler si tu veux.
Ouais, non, mais j'ai mis un peu plus de 2 ans à tomber enceinte. Mais par contre, je savais que, en fait, et ça c'est vraiment un mindset qui m'appartient. Genre, je ne sais pas d'où je trouve des fois de l'énergie dans des trucs où d'habitude il y a beaucoup moins qui m'inquiète beaucoup plus. Mais je savais que ça allait marcher. C'est-à-dire, je me suis accrochée au fait que ça allait fonctionner. Je savais que j'allais pouvoir tomber enceinte. Je ne savais pas pourquoi.
Parce que 2 ans, c'est long.
Ouais.
Il y a des.
Bah, en fait, moi, ma chance.
J'ai reçu des femmes qui pètent des plombs au bout de 6 mois, tu vois, parce qu'elles sont tellement. Et en fait, je le comprends, tu vois. Elles sont tellement obnubilées par le truc de. Putain, en fait, mon projet maintenant à moi, c'est ça.
Je comprends.
Et je n'y arrive pas. Et pourquoi? Et en plus, est-ce que ça veut dire que je ne suis pas une bonne mère? Enfin, tu sais, ça commence la culpabilité.
Ouais, bien sûr.
Toi, t'étais sereine.
Alors après,
confiante.
Non, je vivais pas ma meilleure vie. Hein. Dès que j'avais mes règles, j'avais le seum. J'étais pas bien, tu vois. Mais ça durait 2 heures, enfin, tu vois. Parce qu'en fait, j'avais confiance en la vie. Je savais que j'allais être mère un jour. Je sais pas comment expliquer.
Okay.
Et ma chance aussi, c'est que moi, j'étais. Enfin, j'estime, j'étais jeune. J'avais 30 ans après chacun. Mais en fait, j'avais la chance qu'aucune de copines à moi, de mon groupe d'amis, de mon cercle, était enceinte. Je suis la première à avoir un enfant. Et donc, enfin, il y en avait une ou deux, mais c'était. J'ai une très bonne amie qui avait eu un enfant, mais elle vit en Suisse.
Ouais.
Je sais pas comment t'expliquer, mais mon groupe avec qui je sors, avec qui je vais au restaurant, avec qui à ce moment-là, je vivais ma best life.
Tu partages ta vie, j'allais dire.
Ouais, voilà. Exactement. Ouais. Avec qui, quand les samedis soirs on se voyait, bah, c'était avec elle. Et en fait, moi j'étais la première. Donc, je pense que j'aurais vraiment vécu les choses beaucoup plus mal si j'avais vu toutes mes copines au fur et à mesure tomber enceintes, alors que moi peut-être j'avais le projet bébé avant elles. Tu vois ce genre de
truc.
J'ai
interviewé Elsa, je mettrai un lien parce que c'est toujours trop intéressant. Elsa qui a 45 ans et qui a eu une période où elle a voulu des enfants. Et là aujourd'hui, en fait, là-bas, comme elle dit, la fenêtre est fermée ou est en train de se fermer très fort. En fait, elle dit c'est terrible parce que j'ai jamais eu l'impression de faire partie du club. J'étais à côté du club. Et j'imagine, effectivement, comme tu le dis, que si t'as toutes tes copines qui, d'un coup d'un seul, on peut le dire, hein, l'arrivée d'un enfant, ça te chamboule la vie. Et d'un coup d'un seul, t'as peut-être moins de liberté de pouvoir sortir avec tes potes le samedi soir comme tu veux. Et que toi, t'es la seule à rester à quai.
Ouais.
Ça doit être chiant.
Ça doit être très difficile aussi. Tu vois, ça doit être très difficile. Mais
c'était pas ton cas pour le
coup. Non, c'était pas mon cas. Et une espèce de confiance en la vie. Et surtout, encore une fois, je pense que c'est lié au fait que mes copines n'étaient pas du tout dans cette énergie-là. Et puis, en plus, ça doit être très, très difficile à vivre quand toi, ça fait 2 ans, t'essayes de tomber enceinte. Et t'as ta copine. En 2 mois, elle tombe enceinte. Ça doit être très difficile. Et j'ai eu des grossesses autour de moi. Mais encore une fois, c'était pas mon cercle. Ouais, c'était pas ma bande. Et donc. Et j'avais confiance en la vie et tout, donc j'ai mis 2 ans et demi à tomber enceinte de ma fille. Et donc, évidemment, tu te doutes bien. Moi, en plus, on a mis du temps à se remettre en route. Bah, tu es moi, bah, voilà. Et parce que voilà, c'est la vie de parents. Enfin, chacun son délire, mais moi, ça a été lent.
On peut en parler si tu veux.
Non.
On en parle très bien.
De toute façon, il n'y a pas grand chose à dire.
Il n'y a pas grand chose. Mais non, mais c'est. Alors, je ne sais pas s'il y a grand. Il n'y avait pas grand chose à dire dans les faits, mais. Au sein du couple, ça doit être un dos.
Non, parce que moi, j'ai un mari hyper compréhensif.
Alors, tu le charges bien sur scène. Hein.
Ouais.
Tu lui mets...
Je lui mets tarif.
La zermie.
Mais parce qu'encore une fois...
Il est adorable. Je le vois sur tes stories.
Il est adorable. Il est adorable.
Chaton.
Mais en fait, encore une fois, comme tu disais, l'intime, il est universel. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si moi, j'ai eu envie de le frapper... parce qu'il m'insupportait, et ben en fait, et c'est de l'humour, c'est-à-dire qu'en fait, je dois prendre ce trait et le tirer, tu vois, pour que en fait, les gens, premièrement, ils se reconnaissent et qu'ensuite, ils explosent de rire. Enfin, tu vois, c'est toujours comme ça. Et ouais, je lui mets tarif, et en même temps, mon mari est le premier à le dire, c'est-à-dire que si je viens voir une femme mariée, en couple, avec des enfants, et qu'elle me raconte son parfait amour ou quoi, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce que j'ai envie de voir, c'est du drama, quoi. Et il a complètement conscience de l'image que je renvoie et ce que je dois raconter sur scène, tu vois. Il est complètement d'accord.
C'est trop mime, d'ailleurs. Je mettrai un lien parce que tu as fait une vidéo sur la genèse de ton spectacle sur Insta. Et donc, effectivement, tu le montres et tu dis, il a été génial parce qu'en fait, il s'est occupé de la petite tous les soirs pendant que, bah, toi, t'as rodé, on va en parler, mais t'as rodé énormément ton spectacle. Ouais. Enceinte jusqu'au cou.
Oui. Parce que justement, ce timing que je pouvais plus respecter, lié à ma deuxième grossesse dont je te parlais.
On va y venir. Et donc, ouais, effectivement, ton gars était là et donc on comprend un peu mieux que ceci n'est que des blagues.
Mais bien sûr. Et puis Mathieu, il a coécrit le spectacle aussi. Hein, donc, bon.
Il touche de l'argent grâce à
ça. Même pas. Il a pas voulu que je le mette. Et je lui dis, mais Mathieu, tu sais que si un jour on divorce, je vais être une teigne et je te dirai, mais t'es pas dessus. Et non, il veut pas parce qu'il me dit, ça t'appartient, c'est ton truc et tout. Il veut pas faire, c'est marrant, il fait partie à 100% de tout ce que je fais, mais il ne veut que rien ne lui appartienne. C'est marrant, hein. Ah, mais mon mari est quelqu'un de, c'est un grand féministe sans s'en rendre compte, parce que nous, on n'a pas besoin d'étiquette sur le front pour être ce qu'on est. Et mon mari, c'est un homme, parce qu'il faisait aussi du stand-up à l'époque. Et en fait, il faisait beaucoup d'humour noir. Lui, c'était son truc, c'était l'humour noir. Et en fait, c'est pas parce qu'en fait, par exemple, tu vas faire des blagues qui semblent être racistes que tu es raciste. C'est pas parce que tu vas faire des blagues qui semblent misogynes que tu es un grand misogyne. Enfin, tu vois. Et en fait, parce qu'en fait, c'est tout le principe du second degré et de la dénonciation quelque part.
L'ironie, oui.
Et
tout à fait.
Exactement. Donc, d'où le fait que les gens qui sont très premier degré soient très dangereux finalement pour l'humour aujourd'hui. Je le pense vraiment. Et ils sont très dangereux pour la liberté d'expression. Bref. Et donc, je ne sais plus ce que je te disais,
T'es en train de parler de Mathieu qui t'avait aidé à coécrire
le
spectacle.
Il est complètement en accord avec tout ce que je raconte. Les blagues les pires sur lui sont de lui, hein, donc c'est marrant, hein, c'est incroyable. Voilà, je t'ai tout dit. Et donc du coup, quand j'apprends que je suis enceinte de mon deuxième enfant, tu vois, j'avais tout ce programme moi dans ma tête, tout ce truc, voilà, Avignon 2023, machin, bref. Avignon, pour les gens qui nous connaissent, qui écoutent et qui connaissent
pas. Du contexte, c'est incroyable.
Pardon?
C'est très rare que les invités mettent du contexte.
Ah ouais, parce qu'en fait, je pense toujours à ma communauté. Parce que ma communauté, elle n'est pas censée connaître tout.
Le métier de comédien, etc.
Ouais, exactement. Et souvent, je leur demande leur avis d'ailleurs. Est-ce que vous aimeriez connaître ça, de ce milieu ou ça? Parce qu'en fait, je sais que moi, ils sont spectateurs de ma vie. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont là donc depuis 2020 et qui me connaissaient donc à l'époque où je faisais même pas de stand-up et donc du coup ils sont spectateurs de tout ce qui se passe et moi j'aime bien ça qu'ils connaissent tout parce qu'en fait on n'est pas censé tout connaître et donc voilà pour ceux qui connaissent pas Avignon c'est un grand festival de théâtre en mois de juillet donc à Avignon qui dure 3 semaines et en fait il y a plusieurs milliers de spectacles qui se jouent par jour tous différents donc en fait tout devient un théâtre, le moindre petit garage devient une petite salle, un cinéma devient des salles de spectacle. Et donc, en fait, il y a des spectacles à partir de 9h du matin jusqu'à minuit et on peut aller voir toutes sortes de spectacles. Et moi, j'invite vraiment les gens qui ne connaissent pas à aller découvrir le Festival d'Avignon parce que c'est vraiment super. Et surtout pour les artistes, donc quand je te dis Avignon 2023, en fait, ça permet aux gens d'aller roder, par exemple, leur spectacle. Ouais. Et parce qu'en fait, pendant 3 semaines, tu joues tous les jours ton spectacle. Donc, tu fais évoluer très vite ton spectacle. Et tu vois ce qui marche pas, blablabla. Et souvent, c'est ce que font les stars, en fait. Moi, je l'aurais fait en tant qu'anonyme. Mais par exemple, des Artus, des mecs comme ça, en fait, ils vont roder leur spectacle à Avignon parce que leur public vient les voir. Et eux, ils s'entraînent sur leur public. Ouais. Et si leur public, il y a ça, tel sketch qui rentre pas ou quoi, ok, ça veut dire que ça ne marche pas. Bref, super école, Avignon. Et donc, du coup, j'apprends que j'attends mon deuxième enfant en l'hiver 2021. Et je me dis, bon, bah alors, tout ce calendrier est à foutre à la poubelle. Et surtout, je me dis, mais en fait, c'est marrant parce que depuis que tu as 20 ans, tu te dis, le but, ça sera de... Si avant que je me retire, ça sera d'écrire un spectacle. Et en fait, tu ne vas même pas réussir à le faire. Parce que 2 enfants, franchement, c'est impossible. J'arrive avec 2 enfants, je me connais, je sais que j'y arriverai pas. entre le manque de fatigue, le manque de temps. Moi, ma fille, elle n'allait pas à la crèche, donc j'imaginais peut-être que mon fils...
Oui, c'est que peu d'écart aussi.
Bah ouais, ma fille, elle avait 1 an quand je tombe enceinte. Donc, n'importe quoi. Tu vois, la machine...
Les sages-femmes, elles appellent ça un aller-retour. C'est marrant ou pas?
Ah, ok. Ouais, moi, je connaissais retour de couche.
Non, bah alors oui, ça, c'est le terme
quand
un peu
c'est
officiel,
juste après.
N'est-ce pas?
Un
mais,
aller-retour.
Mais en fait, entre elles, apparemment, moi, j'ai une sage-femme qui m'avait dit, moi, elle appelle ça un aller-retour. C'est genre tu...
Tu viens à la maternité, tu reviens à la maternité. C'est ça? Ah, c'est génial, je ne connaissais pas l'expression. J'adore connaître ce genre de trucs.
Bah voilà.
Et
N'oubliez pas la contraception, les enfants, c'est très important.
Ouais,
si vous avez des projets.
Mais surtout, si tu as galéré à tomber enceinte, en fait, la machine, elle se met en route.
Ouais.
C'est ça. Moi, je pense que là, je pourrais retomber enceinte comme ça.
Pouf.
Mais alors là, aucun risque.
Elle me fait verrouiller à tour de bras.
Ah ouais, là, c'est derrière moi, tout ça. Et donc, du coup.
On pourrait parler de contraception masculine aussi, hein, si tu veux, parce que bon.
Et bien, tu sais, mon mari, tu vois comme il est, il veut faire une vasectomie.
Et bah.
Tu vois?
J'ai des podcasts pour lui, moi j'ai fait une vasectomie.
Ok, extraordinaire. Et bah ouais, en fait.
Je t'enverrai des liens.
Ouais. Et donc, mais tu vois, tellement il est au-dessus du lot, quoi, tu vois.
Ouais.
C'est extraordinaire, un homme qui. Mais dis-moi propre. Et après ma fille. Et puis, je dis, oh, on verra. Mais heureusement, grâce à ça, j'ai mon fils. grâce au fait qu'il n'ait pas fait sa vasectomie.
Parce qu'il était parti pour c'est bien.
Ouais, exactement. Et moi, comme j'étais un peu en mode j'ai peur, enfant unique, c'est dur et tout. Donc, du coup, j'avais dit, attends, on verra.
Et bah voilà, t'as bien vu.
Et donc, du coup, ma seule solution pour me retirer de ce milieu quelque part, me retirer de ce milieu, c'était d'écrire ce spectacle. En fait, c'était vraiment, je voulais vivre sans regret. Je ne voulais pas vivre avec des regrets.
T'étais convaincue qu'avec 2 enfants, c'était mort.
Ouais, en fait, de commencer tout ce travail, oui. Une fois que j'en avais 2, c'était mort. Mmh. Et après, je pense qu'il y en a qui peuvent y arriver. Mmh. Genre, chacun voit midi à sa porte. En tout cas, moi, à ce moment-là, ça me semblait être une montagne. Et donc, en fait, la seule solution qu'on a trouvée avec mon mari, parce que toujours on prend les décisions à 2, et puis même c'est un très bon conseiller.
C'était une vraie discussion de couple que vous avez eue.
Ouais, carrément.
Ouais, c'est cool. Hein.
On s'est dit, mais en fait, faut écrire ce spectacle. Et avec mon metteur en scène aussi, qui est un ami et qui est papa aussi, et qui est de très bons conseils, et qui est quelqu'un de super, et qui voit jamais son intérêt dans les trucs. C'est-à-dire que tous les conseils, tu vois, il me dit, et en fait, on a collégialement, on s'est dit, mais en fait, ce spectacle. Il faut l'écrire maintenant. T'es enceinte. Tu te laisses 9 mois pour écrire ton spectacle. Et donc, du coup, on prend une date au point virgule dans 9 mois.
Rien que ça, c'est incroyable.
C'est incroyable. Le spectacle n'existait pas. J'avais 5 minutes.
C'est pour te mettre une deadline, c'est ça? C'est pour te dire.
Exactement,
okay,
me forcer.
T'es obligé.
Et comme j'étais dans l'optique de me dire, au moins, si ça s'arrêtait à ce moment-là, je faisais une date et je m'arrêtais, c'est comme si moi aussi. J'avais coché la case dans ma tête. Mmh. Et qu'en fait, après, je peux arrêter, faire autre chose. En fait.
Ah ouais, t'étais parti pour te dire, OK, juste une représentation, au moins j'aurais vécu cette expérience.
Ouais, en fait, j'étais pas dans l'optique d'arrêter, parce qu'en fait, t'es pris aussi dans la machine. Tu commences à faire des comédie clubs, des machins et tout. Donc, je kiffais un peu, tu vois. Donc, j'étais pas dans une période down où je me disais, j'arrête. Parce qu'en fait, souvent, quand t'arrêtes dans les métiers artistiques, quand tu dis que t'arrêtes, c'est dans des moments down. Mmh. Non, j'étais dans un truc moteur et tout. Mais, comme ça faisait 10 ans que je me disais, au pire, je le fais et ça s'arrête, en fait, ça me mettait dans un bon truc, tu vois, dans bon mindset.
Ouais, je comprends.
Et par contre, je me disais pas, je le fais, j'arrête, ça y est, je peux arrêter l'intermittence.
Okay.
C'était pas là-dedans, mais je me disais, au moins, je l'ai fait.
C'est plutôt cocher cette case.
Ouais, cocher cette case. Mmh. Et si ça s'arrête, en fait, c'est pas grave, parce que je l'aurais fait. Donc ça, c'était un truc important.
Faut expliquer aussi aux gens, c'est que tu dis, j'ai fait plein de comédie club et tout. L'une des meilleures façons de préparer son spectacle et de tester en temps réel tes vannes, etc., c'est de faire des comédie club. Il y en a plein à Paris. Il commence à y en avoir de plus en plus dans les grandes villes en dehors de Paris, où en fait tu vas et parfois tu peux jouer 1 fois, 2 fois, même parfois 3 fois par soir.
4 fois, 5 fois. Le samedi, tu peux jouer 10 fois. Le samedi, tu peux commencer à midi. Et tu finis à 23h.
À Paris, en tout cas, pas partout.
Mais ça finira par être pareil dans les grandes villes et ensuite de plus en plus. Mais ouais. Et en fait, du coup, je fais une affiche éphémère que je fais dessiner et tout. Bam. Et je mets en vente un spectacle qui n'existe pas. Et là, tout part en 24 heures. Genre ma communauté dont je te parlais, on n'était pas nombreux à ce moment-là. On était moins de 10 000. Je pense qu'on était 6-7 000, mais 7 000 très féroces.
Ouais, très engagées.
Et... très engagées, extraordinaire.
Après, le point virgule, c'est 100 et quelques
places.
Ouais, mais c'est chaud quand même de vendre
quand
un petit peu de temps.
Tu sais, quand j'ai pris la date, la directrice du point virgule, parce que donc mon metteur en scène, son argument, c'était « Ouais, mais elle a tant d'abonnés et tout. » Elle dit « Attends.
Oui.
J'ai des gens qui ont 200 000 abonnés qui ne remplissent pas le point virgule. » Tu vois, enfin,
bien sûr.
Et donc, du coup, ma famille n'a même pas eu le temps de prendre des places. Parce qu'ils se disaient « C'est dans 9 mois. » Genre, non mais incroyable. Et d'ailleurs, ils m'en ont bien voulu. Et donc, du coup, bref, et donc, j'écris mon spectacle. Enfin, je commence à écrire. Je me dis « Voilà, dans 9 mois, j'ai mon spectacle. » Moi, à ce moment-là, j'étais enceinte de quelques mois. Mon fils naissait en juin et mon spectacle naissait en novembre. Et moi, je voulais absolument me laisser le temps des premiers mois avec mon fils.
Bah oui.
Je ne voulais absolument pas être obligée de travailler. Mmh. Genre, hors de question, je voulais. Donc, en fait, il fallait absolument que j'écrive un maximum avant sa naissance. Donc, en fait, 7 jours sur 7, j'ai joué. Plusieurs comédie clubs par soir. J'ai rodé une tonne de matériel. Parce qu'en fait, il fallait qu'avant sa naissance... J'ai 70% du spectacle. Et donc, du coup, j'ai rodé.
Comment ça se passe, ça, de bosser à ce point-là, tout en étant enceinte? Est-ce que tu as vécu une grossesse plutôt tranquille niveau santé? Est-ce que de ce fait, cette suractivité t'a un peu impacté aussi? Enfin, tu vois, moi, j'ai souvenir que ma femme, à l'époque, pour la deuxième grossesse, elle était un peu en mode OK, donc il y a la première qui est là.
Et moi, je la gardais, la petite, hein, elle n'est pas à la crèche. Hein, ni
oh,
chez la
wow.
nounou. Ouais, ouais.
OK.
Ouais, je la gardais la journée.
Donc, tu avais des journées chargées, quoi.
Ouais,
et des
très
soirées.
Chargées. J'étais morte. J'étais épuisée. Comme jamais de ma vie, j'ai été épuisée. Parce que j'avais Ellie la journée donc, dont je m'occupais. Et puis, moi, il n'y a pas. Je l'emmenais tous les jours, j'habitais à côté, donc j'allais tous les jours à la Cité des Sciences, pas d'écran à la maison. Donc moi, toute la journée, en tailleur, par terre, à jouer avec des livres, jouer avec des jeux, ou sinon être à la Cité des Sciences tous les jours, avec la petite. Pendant qu'elle était en sieste, j'écrivais.
Waouh.
Le soir, j'allais jouer, j'allais tester, je m'enregistrais avec un dictaphone, pour que le lendemain, lors de la sieste, j'écoutais mon dictaphone, parce que j'avais enregistré en dictaphone, ouais. Et que je voyais quelle vanne ne fonctionnait pas, quelle vanne fonctionnait, quelle vanne je pouvais tirer, où est-ce qu'il y avait du potentiel, où est-ce qu'il n'y en avait pas. Enfin voilà,
c'est une vraie science hein, pour les gens qui ne l'ont pas.
Ouais.
J'en ai beaucoup parlé dans mon autre podcast, mais dans Histoire de Daronne, pas beaucoup. C'est une vraie science, le rire. Hein, ça se...
Le stand-up, c'est une discipline au millimètre. Alors, pas pour tout le monde, il y en a qui font... mais c'est le stand-up, c'est une discipline au millimètre, à la respiration près, à la virgule près. Et encore, moi, je suis pas encore au stade de Gad Elmaleh. Enfin, mais tu vois, un Gad Elmaleh, tout est réfléchi. Le moment où il va boire, le truc, tout. Genre, un tournage de tête.
Ouais.
C'est une chorégraphie, mais une chorégraphie physique, verbale, même respiratoire. Enfin, c'est vraiment un truc... on n'imagine pas à quel millimètre c'est.
Oui, c'est ça. Une vanne peut marcher ou pas marcher en fonction de juste l'intonation, de la façon dont tu la mets en place, etc.
Des fois, il suffit
beaucoup.
Que... Tu sais, une vanne, souvent, les meilleures vannes, c'est prémisse, donc installation de la situation, qui est censée faire un peu rire, puis la punch derrière. Et souvent, en fait, elles doivent se suivre. Et parfois, à la prémisse, les gens... ils vont avoir une réaction qu'ils sont pas censés avoir parce que pour toi, il devait pas y avoir d'applause à cette prémisse. Mais il suffit que ce soir-là, tu sois en forme ou que les gens, ça les touche un peu plus. Bref, si à cette prémisse, t'as les applauses, ta punchline, elle marche pas derrière. Enfin, tu vois, c'est un truc, comme c'est un truc de rythme, machin, et ben en fait, le moindre truc qui dévie, alors qu'en fait, c'est plutôt bénéfique, c'est un truc que tu peux pas contrôler, c'est les réactions du public. Donc il suffit que le public... ils applaudissent à un moment où il n'est pas du tout censé applaudir, ils te niquent ta vanne sans t'en rendre compte. Mais ça, c'est le jeu, c'est comme ça. Tu
oui,
vois
c'est le jazz.
Bah oui,
faut
exactement. Et donc, du coup, je passe une grossesse épuisante, très, très fatigante. Mais en vrai, tout ça, je ne le fais pas pour moi. Je le fais pour moi, mais je le fais pour eux. Tu vois, enfin, c'est tout un truc où, en fait, quand je culpabilise...
Quand tu dis pour eux.
Pour mes enfants. Tu vois, c'est de montrer à mes enfants que leur mère, elle a été au bout de ses rêves. C'est-à-dire qu'elle a mis tout en œuvre pour aller au bout du truc. Je dis
tu
pas.
Tu projetais déjà ça? Tu projetais déjà ton.
Mais de ouf.
Bah ok.
Ah mais de ouf.
Ton rôle de mère là-dedans et un peu le modèle.
Ah non, mais bah, évidemment.
Bah, bah, tu dis ah, bah, ça.
Ah non, non, mais
tu aurais pu le faire pour ta pomme. Parce que pour ta pomme, tu vois.
Ah bah alors, c'est tout un, c'est un tout. Bien oui. sûr, c'est pour ma pomme et tout, bien sûr. Mais quand, par exemple, j'étais épuisée, j'étais très, très fatiguée, et que je me disais, mon fils, qui était dans mon ventre à ce moment-là, je m'inquiétais pour lui parce qu'il allait bien et tout, mais je me disais, voilà, là, ça me tire, là, je suis fatiguée, ouais. là, machin. Je me disais, mais en fait, je serais tellement fière d'avoir accompli ça qu'en fait, de leur montrer qu'en fait, on peut aller au bout de ses rêves, que même quand... et je te dis pas réussir, hein. Moi, je te dis juste, là, le but, c'était pas du tout... J'étais pas dans la réussite. J'étais, oui, dans la réussite du rêve à accomplir.
De ce projet.
Voilà,
de
exactement.
Cette case à cocher,
la case à cocher. Mm. Et ça, c'était hyper important pour moi. Même aujourd'hui, tu vois, quand je pars en tournée et que, bah, du coup, je pars plusieurs jours, je culpabilise énormément. Quand je rentre, j'ai l'impression que mon fils, il fait des trucs qu'il savait pas faire avant que je parte, tant que je suis partie 48 heures, tu vois. J'ai l'impression que même mon mari, il essaye de lui faire réussir des trucs pendant que je suis absente, ce bâtard.
Il a quel âge aujourd'hui, alors?
Attends. Un an et demi.
Un an et demi.
Et en fait, quand arrivent ces moments-là, je culpabilise de ouf. Mmh. Et en fait, je me dis, mais en fait, en vrai, c'est aussi bien qu'ils voient que leur mère, elle essaye de gagner sa vie, elle essaye de se dépasser, de machin. Ça me coûte, franchement, c'est un truc qui me coûte parce que là, je pars en tournée au printemps et il y a des jours qui sont, que j'envisage, genre c'est très dur pour moi parce qu'en fait je suis partagée parce que je vais rencontrer ces filles qui me suivent depuis 2020 pour la plupart parce qu'elles ont rempli ma tournée est complète et la plupart de ces gens me suivent depuis des années.
Qui t'ont donc jamais vu?
Non, jamais vu
en
vrai.
Spectacle,
non.
Parce que tu n'as joué qu'à Paris pour
ouais.
l'instant quoi.
Ouais ouais, alors il y a des filles qui sont venues, qui ont fait oui. le déplacement et tout, mais moi je suis trop heureuse de commencer cette tournée parce que la tournée elle commence au printemps et je vais rencontrer ces filles qui partagent ma vie finalement, ces filles et ces hommes en vrai, hein, depuis 2020. Donc ça, je sais que c'est une tournée extraordinaire que je vivrai qu'une seule fois. Des gens qui me suivent depuis si longtemps que
oui,
je vais rencontrer.
C'est ta première fois.
C'est ma première tournée, quoi. C'est ma première tournée et tout. Donc ça, j'en suis vraiment heureuse. Et en même temps, il y a des fois où je vais m'absenter de chez moi pendant 5 jours. Et ça, mais rien, là, encore rien que d'y penser, ça me met une angoisse. Et en fait, là, on est en train de travailler sur la tournée suivante. Et c'est marrant, mais moi, dans ma tête, je sais pas à quoi je m'attendais. Mais c'est comme si, bon allez, ok, là je fais l'impasse, là ça va être dur au printemps, d'avril à juin je vais souffrir, mais bon, et en fait j'avais pas calculé qu'il y aurait une autre tournée l'année d'après, et en fait la tournée de l'année d'après, elle est encore pire, c'est-à-dire que enfin, je suis
pire,
chez moi
meilleur,
un week-end,
tu veux dire,
pour ma vie de famille elle est encore pire,
oui, pour
elle est plus dure,
elle est meilleure pour ta vie de comédienne,
mais ma vie d'artiste elle est extraordinaire, c'est-à-dire qu'en fait je passe ma vie à être partagée entre le bonheur incroyable de rencontrer mon public, d'être sur scène et machin, et c'est un vrai bonheur, c'est-à-dire, voilà, et cette difficulté. Mais en fait, j'essaye vraiment, du coup, ma façon à moi de pallier à cette absence et à ces moments que je rate, parce que je rate des moments, et à la culpabilité aussi de laisser mon mari tout seul, hein, parce que, voilà, et ben en fait, ma façon de pallier, c'est de ramener de l'argent. C'est con, hein, mais en tournée, je gagne de l'argent. Et du coup, de vivre des moments de qualité avec mes enfants. Ça, c'est mon arme. C'est-à-dire, voilà, je prends tant d'argent. Et ben en fait, avec cet argent, je vais me faire plaisir. Et en fait, on va se prendre un week-end de fou. Et on va partir 4 jours avec mes enfants en immersion. Ou avec mon mari, on n'a pas les portables. Et donc, et en fait, voilà, je me dis que c'est comme ça que je vais apprendre à vivre ma vie d'artiste. C'est qu'en fait, je ne serai pas souvent là. Mais par contre, quand je serai là, on va kiffer. Tu vois.
Tu vas créer des souvenirs.
Ouais. Grave. Grave. Je suis obligée. Donc, bon, du coup, je ne mettrai pas beaucoup d'argent de côté. Mais, mais c'est pas grave.
On s'en fout de l'argent.
Ah, j'en ai
l'argent,
rien
il est là pour être dépensé.
Ah oui,
non
mais l'argent, c'est matériel. Ah, l'argent, c'est matériel.
J'ai un super podcast qui s'appelle Histoire d'argent, si tu veux écouter. C'est incroyable.
C'est
vrai. Je fais parler les gens de leur rapport à l'argent. C'est incroyable.
Et bah, ouais, moi, vraiment, l'argent.
Ça sert à ça.
J'en ai manqué à un moment donné. Quand j'avais ma fille, ça a été un moment hyper difficile, mais en fait aujourd'hui on roule pas du tout sur l'or, mais en fait je peux me payer des week-ends, voilà, pour l'instant, donc c'est cool, pas encore des vacances mais des week-ends, et ça c'est cool, et en fait je me rends vraiment compte quand je vois ce qui se passe dans le monde, quand je vois même des mamans qui me suivent et qui me racontent des épreuves qu'elles vivent avec leurs enfants, des vraies épreuves dont on n'a même pas envie de parler, mmh. tellement c'est dur. Et ben en fait, mes enfants, ils ont la santé. Mmh. Moi, à partir du moment où mes enfants, ils ont la santé, je touche du bois.
Superstitieuse.
Ah oh là là, ça tombe.
T'as une culotte fétiche ou pas pour sur cette...
Non, quand même pas.
Enfin, tu pourrais,
mais non, mais en tout ce qui concerne les enfants, je suis superstitieuse. Mmh. Mais mes enfants, ils ont la santé. Moi, qu'on roule pas sur l'or, c'est vraiment un peu vraiment, vraiment pas important. Mmh. Mais vraiment, je le pense vraiment. C'est-à-dire que tant qu'ils ont à manger et qu'on peut se payer s'offrir des moments, c'est waouh.
Tu vas arriver à couper dans ton quotidien. Par exemple, quand tu seras en tournée, tu vois, si tu pars 5 jours et que tu reviens 2 jours, tu vas réussir à te dire, OK, là, pendant 2 jours, même si t'es dans votre vie, tu vois, parisienne, quoi, tu vois, tu vas réussir à couper.
Couper de la scène ?
Couper de ton métier, parce qu'en fait, j'imagine qu'il y a toujours des sollicitations.
Après, je coupe, mais sans jamais couper. Ça m'habite, c'est un truc qui fait partie de moi. C'est un truc... c'est un truc, ouais, qui fait vraiment partie de... Tu vois, genre, en fait, j'essaye de voir toujours l'humour dans des moves que mon mari va faire, que mes enfants vont faire. Donc, en fait, je suis jamais déconnectée. Mmh. Mais parce qu'en fait... Mais après, moi, j'ai toujours... vu l'humour dans toutes les scènes, dans toutes les situations de la vie, même quand j'étais jeune, même quand j'étais ado, même quand j'étais une jeune fille, même quand, tu vois, même juste dans mon couple, enfin tu vois. Donc en fait, je ne coupe jamais avec ma perception de la vie parce que je la vois comme une humoriste, je crois, hein, tu vois. Donc je coupe jamais, mais c'est parce que c'est ma façon de voir la vie, de tirer l'humour de situation.
Bah merci beaucoup. Est-ce qu'il y a un sujet sur la maternité dont je t'ai pas parlé, dont tu aurais aimé parler?
Non, je crois pas.
Qui te tient un peu à cœur ou je ne sais pas.
Non, en ce qui concerne la maternité?
Ouais.
Non, je crois pas. Écoute, moi, je vis ma maternité avec en essayant de déculpabiliser au maximum. Tu vois, ça va un peu à l'encontre de ce que toi tu disais, ce que je te disais juste avant. Mais j'essaye vraiment d'être. Tu vois, j'essaye toujours de pallier à la culpabilité. Tu vois, par tous les moyens. Tu vois, là, par exemple, je sais que ma tournée qui arrive, ça va être difficile personnellement, pas professionnellement.
En tant que maman.
Ouais, en tant que maman, ça va être pas en tant que Blandine, mais en tant que maman de mes enfants. Oui, ça va être difficile. Mmh. Et pas en tant que femme non plus, pas en tant que la femme de mon mari, parce que c'est bien aussi que le couple, des fois, il se voit pas et tout. Mais vraiment, en tant que maman, ça va être difficile. Mais du coup, j'essaye toujours, comme j'essaye de tout vivre avec déculpabilité, ça se dit ?
Oui, je pourrais. Ouais. En tout cas, c'est compréhensible.
Ouais, ok. je crois que ça se dit comme ça. Hein. Comme j'essaye de tout vivre comme ça, quand je ressens de la culpabilité, j'essaye toujours de trouver une solution à ça pour ne pas être dans cette énergie, parce que c'est des trucs qui sont très vivre avec de la culpabilité, tu vois. Et en vrai, même en vrai, mon spectacle, pourquoi dans ma tête je me disais, si jamais t'arrêtes ce métier, il faut absolument que t'écrives, pour pas vivre avec cette culpabilité quelque part
de pas l'avoir fait
en fait. Vivre avec de la culpabilité, tu vois, je me rends compte en te parlant finalement que c'est peut-être un de mes traits de caractère, qu'en fait j'arrivais pas à mettre un mot là-dessus. Mais en fait, je crois que une de mes forces, c'est dans la vie, c'est d'essayer, c'est pas de pas avoir des regrets, c'est de pas vivre avec de la culpabilité. C'est pour ça que j'essaie toujours de me comporter bien avec les gens. Je sais pas si j'y arrive tout le temps, mais j'essaie toujours de me comporter bien avec les gens, parce que je n'ai surtout pas envie de vivre, parce que je crois que je suis hypersensible, et en fait c'est des choses qui pourraient m'empêcher de dormir. Genre, une fois il y a une nana qui me dit dans le spectacle qu'elle s'est sentie un peu offensée parce que je parle du fait que j'étais très grosse quand j'étais jeune. Et qu'en fait, moi, j'ai l'angoisse que mes enfants soient gros, mais après, je l'explique dans mon spectacle. Genre, je dis, je veux pas que mes enfants vivent ce que moi j'ai vécu, simplement. Voilà, le harcèlement, tout ça, j'ai pas envie que mes enfants le vivent. Et déjà, c'est déjà assez difficile la vie. Si en plus tu te rajoutes ça, voilà. Et je trouve que mon propos, il est pas offensant. Parce qu'en fait, c'est un truc avec moi-même.
Tu parles de toi.
Ouais, je parle de moi. Et je trouve que c'est plutôt même sain quand t'as vécu quelque chose qui t'a fait du mal, de pas en voir envie que tes enfants vivent la même chose. Je crois que c'est assez sain.
Plutôt.
Et en fait, je pense que cette fille...
Tu peux pas l'empêcher de ressentir ce qu'elle ressent, quoi.
Voilà. Et cette fille, elle s'est sentie offensée. Et donc, elle m'a envoyé un message pour me dire machin et tout. Et en fait, j'ai pas voulu répondre tout de suite parce que je me suis dit... Là, je peux lui répondre un peu de façon agressive. Parce qu'en fait, comme je me sentais un peu agressée dans ma légitimité, parce que moi, j'ai le sous-texte, tu vois. Mais elle, peut-être que moi, j'ai le sous-texte, et peut-être que j'ai l'impression de bien le dire, le sous-texte, mais peut-être qu'en fait, je le dis pas bien. Putain, et ben, ça m'a empêché de dormir. Parce qu'en fait, je me suis dit, putain, cette meuf, elle est rentrée chez elle. Elle s'est sentie offensée. Elle a mis 2 jours à m'écrire un message. Donc, je me suis dit, ça veut dire pendant 2 jours, elle a pensé à ça, tu vois. Et ben en fait, moi, j'ai pas réussi à dormir. Tu vois, parce qu'en fait, au début, j'ai voulu répondre en étant un peu agressive. En fait, je me suis dit, non, je peux pas lui répondre de façon agressive. Ça se trouve, elle l'a super mal vécu.
Bah ouais.
Tu vois, mais en fait, ça régit ma vie. C'est-à-dire, ne pas vivre avec de la culpabilité. Hyper important.
Ok.
Voilà.
J'ai une dernière question pour toi.
Ouais, dis-moi.
C'est une question que je pose à tout le monde.
Oui, je me doute.
Si tes enfants... écoute ce podcast dans 10 ans.
Mm-hmm.
Qu'est-ce que tu as envie de leur dire là aujourd'hui?
Il faut aller.
Ils auront quel âge?
12 ans. Dans 10 ans, ils auront 12 et 11 ans. 13, pardon. 13 et 11 ans, la meuf qui connaît, qui sait pas additionner 10. Un chiffre.
13 et 11 ans. T'imagines?
Affreux, j'ai même pas envie d'imaginer. Et
ah
surtout,
bon,
moi, j'aurai quel âge? Presque 44 ans.
Ça se passe très bien.
Ouais, ouais.
Ça arrive à des gens bien, franchement.
Ouais,
ça, c'est cool.
J'espère que ça m'arrivera surtout. Si je les ai pas, c'est moi aussi. Qu'est-ce que j'ai envie de leur dire? J'espère qu'ils seront fiers de leurs parents, fiers de leur parcours. J'espère que ils auront compris pourquoi j'ai fait ça. Et j'espère que ça sera inspirant un peu pour eux. Qu'ils auront compris qu'il faut aller au bout des choses, pas qu'au bout de ses rêves, hein, au bout des choses de manière générale. Et surtout, je t'en parlais en off tout à l'heure, j'espère qu'ils auront, ça sera des enfants, je ferai tout pour qu'ils aient confiance en eux. Parce que la confiance en soi, c'est pas du tout la chose négative qu'on pense que c'est. Tu vois, on pense toujours, ah là là, les gens ont confiance en eux. Pas de la confiance en soi mal placée.
C'est de l'arrogance. Tu parles d'arrogance, c'est
non.
ça, à ce moment-là?
Ouais, ouais, je pense que les gens, ils assimilent ça à de l'arrogance, péter plus haut que son cul. Non, en fait, avoir confiance en soi, avoir conscience de sa valeur. Moi, franchement, j'ai confiance en moi depuis quelques années, et je t'en parlais. Et en fait, franchement, ça a changé ma vie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'envie, il n'y a pas de jalousie. Déjà, ça, c'est tu t'enlèves des sentiments tellement négatifs.
Oui.
Et surtout, du coup, t'es centré sur toi. Et en fait, du coup, ce que font les autres, tu le vois, mais tu le vois pas avec un regard négatif. Et surtout, la confiance en soi, ça t'aide à t'accepter. Et si je pouvais transmettre une seule chose à mes enfants, vraiment en tant qu'enfant et en tant que jeunes ados et tout, c'est vraiment, j'espère que t'as la confiance en toi parce que t'es quelqu'un, c'est des enfants, mais comme... Voilà. Et de toute façon, les enfants qui sont des enfants durs avec les autres, méchants, parce qu'on peut le dire, c'est des enfants finalement qui ont des problèmes avec eux-mêmes, qui n'ont aucune confiance en eux. Enfin, voilà. De toute façon, c'est le mal du siècle, c'est le mal de la vie, des relations humaines. Si tout le monde avait la confiance en soi, on vivrait dans un autre monde. Hein.
Bah oui, bien sûr. Et puis de recevoir de l'amour. Pour moi, c'est les enfants qui sont comme ça, c'est souvent qui manquent cruellement d'amour et qui vont chercher de l'amour chez les autres. Ou en tout cas,
de la reconnaissance.
Ouais, c'est ça. Merci beaucoup, Blandine. Ton spectacle,
merci à toi.
Ça s'appelle La vie de ta mère.
Ouais. J'adore ce titre.
C'est au point virgule, donc. Alors attends, jusqu'à
fin mars. Bon, là, il reste vraiment peu de place.
Parce que t'as tout vendu, la meuf est là comme ça. Le vendredi et le samedi, c'est ça?
Jusqu'à fin mars. Et on fera une exceptionnelle. Je te le donne en exclu. Voilà, la meuf qui a plus de mots après une heure de podcast. On fera une exceptionnelle le 4 juin au théâtre de l'Européen.
La classe.
Ouais, extraordinaire. Donc voilà.
Bah trop bien. Et je mettrai toutes les internet, hein, si vous voulez aller voir un petit peu ce que fait Blandine, ton site Insta.
Oh, enfin,
quelle vieille personne. Quelle vieille personne, vraiment. Ton
J'espère
Insta.
Que je serai pas comme ça à 43 ans.
J'ai 46 et...
Toi, tu le fais pas.
Merci.
Ah, ouais.
C'est mon teint de pêche.
merci à toi.
Ton Insta et tout.
Oui,
dans les
plaisir.
Notes, comme d'habitude, les gens ont l'habitude, tu sais.
Bah, merci bien. Sûr.
Salut.
Merci.
Un grand merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. Pensez à rejoindre le serveur Discord pour venir commenter avec le reste de ma commu. Je vous trouverai tous les liens dans les notes de cet épisode. Et si mon travail vous plaît, je vous rappelle que vous pouvez m'offrir en échange un peu de sérénité en vous abonnant à mon Patreon ou en m'envoyant de l'argent en vous munissant de votre CB. Vous trouverez tous les liens dans les notes de cet épisode également. Bonne fin de journée et j'espère à très bientôt pour un nouvel épisode de podcast.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.